Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Avec notre invité ce soir à 18h20, c'est une femme pleine d'ambition qui dit vouloir changer le monde. Elle a moins de 30 ans, elle est entrepreneure et publie « Ma génération va changer le monde » aux éditions de l'Aube. C'est un ouvrage passionnant sur le nouvel engagement des jeunes et de ces nouveaux patrons qui veulent révolutionner l'entreprise. 19h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Emmanuel Macron serait-il devenu sarkozyste? Il enclenche en tout cas un sérieux virage à droite, on en parlera. 19h15, la carte blanche de l'entrepreneur Philippe Manière. Stop aux lourdeurs de la fiscalité française, nous dira-t-il. Et à 19h20, le Club des Idées. Grand débat ce soir sur la mouvance complotiste et survivaliste. Qui est ce gourou français très actif sur Internet qui aurait joué un rôle dans l'enlèvement de la petite Mia depuis la Malaisie? Qui sont ces réseaux tentaculaires qui veulent renverser l'État et prônent la lutte armée? Combien sautent-ils? S'inspirent-ils aussi du mouvement QAnon aux États-Unis? En tout cas, les services de renseignement, on le verra, s'y intéressent de près. On en débattra donc avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord, toute l'info avec le JT, présenté par Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
L'examen attentif de ces cas et de tous les éléments disponibles nous conduisent à penser que ces caillots sanguins sont des effets secondaires très rares du vaccin.
L'Agence européenne du médicament estime que le vaccin de chez Janssen comporte davantage de bénéfices que de risques. Et c'est une bonne nouvelle qui devrait booster la campagne de vaccination chez nous en France, même si les thromboses font partie des très rares effets secondaires.
Déconfinement, le ministre de la Santé favorable à une levée des restrictions par territoire. Très bonne idée, lui répond le maire de La Roche-sur-Yon en Vendée, nous serons sur place.
L'homme soupçonné d'avoir organisé depuis la Malaisie l'enlèvement de la petite Mia fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il revendique une volonté de déstabiliser l'État français.
Il dirigeait son pays depuis 30 ans d'une main de fer. Le président tchadien Idriss Déby est mort au combat. Il était un partenaire solide de la France dans la lutte contre le djihadisme au Sahel.
Minneapolis attend avec fébrilité le verdict au procès de Derek Chauvin, le policier à l'origine de la mort de George Floyd. Verdict qui pourrait de nouveau embraser l'Amérique.
Face au projet de Super League, l'UEFA et la FIFA main dans la main. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce putsch, y compris celle de Pep Guardiola, dont le club est pourtant concerné.
La Bourse de Paris a terminé en forte baisse ce soir, moins 2,09% à 6165 points.
La météo avec Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Des nuages et de l'humidité demain dans le sud.
Oui, sur le quart sud-est principalement. La journée de demain va commencer sous la pluie et se dérouler sous la pluie. Ailleurs, le temps est variable avec des températures qui restent douces et de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On attendait donc l'avis de l'Agence européenne du médicament sur l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson. Et bien cette dernière confirme qu'il est sûr et qu'il peut donc être déployé en Europe.
Oui, on rappelle que les États-Unis avaient demandé une pause, le temps de vérifier les possibles effets secondaires rares.
Effets qui existent, effectivement, l'Agence européenne ne le nie pas d'ailleurs. Hein, Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Oui, une fois de plus, les experts de l'agence se sont livrés à un exercice pas facile, être totalement transparent scientifiquement, tout en se voulant rassurant pour le grand public. À leurs yeux, les bénéfices du vaccin Johnson & Johnson dépassent toujours largement les risques, mais ils ont examiné avec soin les 8 cas de thrombose dénombrés aux États-Unis après 7 millions de piqûres, et ils voient un lien possible, selon le docteur Sabine Strauss, qui a géré ce dossier.
Les cas signalés sont principalement des femmes de moins de 60 ans. Ils se sont produits dans les 3 semaines après la vaccination. L'examen attentif de ces cas et de tous les éléments disponibles nous conduisent à penser que ces caillots sanguins sont des effets secondaires très rares du vaccin.
L'Agence européenne n'identifie pas à ce stade de facteurs de risque particuliers. Elle fait aussi le parallèle avec les désordres sanguins constatés lors de la vaccination avec le sérum d'AstraZeneca. Les deux vaccins reposent sur la même technique. Alors en France, on attend maintenant l'avis de la Haute Autorité de Santé. Chez nous, le vaccin est pour le moment prévu pour les plus de 55 ans. Il est très attendu car c'est le seul qui ne nécessite qu'une dose. Les livraisons commencent ces jours-ci. La France attend presque 8 millions de doses d'ici fin juin.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. À propos de vaccination, à partir de samedi, 400 000 travailleurs supplémentaires vont pouvoir se faire vacciner, ce que l'on appelle la deuxième ligne, vous savez, caissière, conducteur de bus, chauffeur routier ou encore agent d'entretien. À condition d'avoir plus de 55 ans, des créneaux de vaccination leur seront réservés pendant 2 semaines.
Dans les colonnes du journal Le Télégramme, le ministre de la Santé Olivier Véran note lui une décroissance de l'épidémie depuis 5 jours, dit-il, même s'il reste à un niveau toujours très élevé, et il se déclare favorable à un déconfinement confinement territorialisé.
Idée poussée par de nombreux élus dans les zones où le virus est un peu moins actif. C'est le cas notamment en Vendée, Charles Guyard, à La Roche-sur-Yon, où vous vous trouvez. Ces propos, en tout cas, ont été accueillis avec un certain enthousiasme.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le maire, Luc Bouard, y voit d'ailleurs une formidable opportunité.
Eh ben, nous, on s'est dit que voilà, on avait pris un petit peu d'avance et qu'on espérait bien être dans les papiers du ministre.
La Roche-sur-Yon est même dans les petits papiers de l'Élysée, puisque le maire a fait part directement à Emmanuel Macron, la semaine dernière, par visioconférence, de sa volonté d'être un laboratoire du déconfinement.
Il sait que la Roche-sur-Yon est prête à accueillir cette expérimentation assez rapidement sur les bars et les restaurants. Il suffit d'adapter ce que nous avons fait au mois de juin, peut-être avec des mesures plus larges. Si on peut pousser jusqu'à 20h, c'est quand même plus intéressant. Et les lieux de culture, c'est prêt.
La preuve avec l'espace d'art contemporain.
Voilà, bienvenue au musée.
Les lieux sont fermés depuis le 30 octobre, mais une exposition attend déjà ses visiteurs, selon un protocole mis en place. Claire Maurer-Montauzet, la directrice du service musée patrimoine de la ville.
Donc tout est prévu pour que le public soit en sécurité. Un parcours de visite qui va être organisé de manière à ce que les visiteurs ne se croisent pas. La salle sera plus aérée que d'habitude et la jauge, 18 personnes maximum dans cet espace.
Et les visites guidées seront proposées sur rendez-vous quant à la sortie du musée.
On sortirait par cette sortie de secours et les visiteurs peuvent continuer leur visite de la ville.
Une ville qui espère donc proposer ce test grandeur nature de déconfinement, si possible dès le 3 mai.
Charles Guyard à La Roche-sur-Yon, en Vendée pour Europe 1. Ils se disent écœurés par le verdict du procès de Véry Châtillon. Dans toute la France, des policiers ont manifesté aujourd'hui en soutien à leurs collègues de l'Essonne. 8 des 13 jeunes impliqués dans cette violence agression contre des policiers, donc ont en effet été acquittés.
Changeons la loi, a dit ce matin sur Europe 1 Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, candidat à la présidentielle. Il propose d'envoyer automatiquement tous les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers ou de maires en prison.
Sur Twitter, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lui répond « Aucun policier, aucun magistrat, dit-il, n'acceptera de substituer le principe de la justice à la logique de la rafle. » Depuis mise au point de Xavier Bertrand, ces peines automatiques, dit-il, seraient instaurées au terme d'un procès.
L'enlèvement à présent de la petite Mia dans les Vosges, un mandat d'arrêt international a donc été lancé contre ce gourou complotiste suspecté d'avoir influencé et aidé le fameux commando.
Il s'appelle Rémi Daillé, c'est un ancien membre du Modem, réfugié donc en Malaisie, déjà bien connu des services de renseignement, Marion Dubreuil, et qui aujourd'hui joue sur les mots pour justifier son action.
Oui, Rémi Daillé, que nous avons pu joindre cet après-midi, refuse de parler d'enlèvement. Il parle de restitution d'un enfant à sa mère. Or, il faut le rappeler, la garde de Mia avait été confiée par la justice à sa grand-mère maternelle en janvier dernier.
Là, c'est la restitution au parent qui a l'autorité parentale. C'est l'État qui enlève des enfants par dizaines de milliers chaque année. La restitution, est, pour ce que j'en sais, c'est très bien passé. Ces gens courageux ont fait ce qu'il fallait, en bon père de famille. Et ils ont parfaitement raison de le faire, et je les en félicite.
En revanche, dès qu'il est question de son rôle concret dans l'enlèvement de Mia, de son implication pénale notamment, Rémi Daillé botte en touche. Il refuse d'expliquer quels sont ses liens avec Lola Montemaggi, la maman, ou avec les 6 membres de ce commando. Il dit simplement qu'il répond souvent aux parents en détresse face à des placements qu'il qualifie d'abusifs. Or, la justice lui reproche plus que son rôle de gourou anti-système. Le procureur de la République de Nancy a précisé qu'il aurait participé à l'enlèvement de la petite fille. Il aurait mis en lien la mère de Mia avec la femme qu'il l'a hébergé dans sa fuite à Neuchâtel en Suisse. Un mis en cause a expliqué en garde à vue que c'est Rémi Daillé qui avait financé l'opération à hauteur de 3000 euros, le tout depuis la Malaisie, un pays qui coopère mal avec la France en matière pénale.
Merci beaucoup Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
La mort à présent du président tchadien Idriss Déby, tombé sur le champ de bataille.
Oui, lui qui se présentait comme un guerrier est mort en guerrier. Il a succombé à ses blessures sur le front dans le nord du pays où son armée luttait contre des rebelles. Il avait 68 ans et venait tout juste d'être réélu pour un 6e mandat à la tête de son pays. C'est son fils qui assure l'intérim appuyé par l'armée.
Une disparition qui inquiète ses proches alliés, à commencer évidemment par la France. Idriss Déby était en effet un acteur de la guerre au Sahel, un partenaire clé pour l'Occident, comme le confirme Antoine Glaser, grand spécialiste de l'Afrique.
C'était vraiment quelque part l'homme de la France dans la région, qui a les seules troupes aguerries en soutien à l'opération Serval puis Barkhane. Idriss Déby, il était quand même quasiment de droit divin au Tchad. Donc sa disparition, ce n'est pas simplement la disparition d'un président, mais aussi la disparition surtout de quelqu'un qui maîtrisait complètement les codes avec tous ses voisins, avec qui il avait des relations privilégiées. Donc c'est un coup dur en fait pour toute la stratégie militaire d'Emmanuel Macron dans la région. C'est au moment où il annonçait au mois de février qu'il aimerait bien que la France, Barkhane, soit plus en première ligne. ligne, là, ça va sans doute obliger la France d'être un peu les mains dans le cambouis pour pas que le Tchad s'effondre.
Le journaliste spécialiste de l'Afrique, Antoine Glazer, joint pour Europe 1 par Johanna Chabas, et on reviendra sur la mort du président tchadien dans le journal de 19h avec Didier François. La France perd un ami courageux, dit un communiqué de l'Élysée. Paris rappelle son attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal et on part aux États-Unis où les 12 jurés se sont retirés pour délibérer au procès de Derek Chauvin.
Ce policier accusé du meurtre de George Floyd, l'Amérique est suspendue bien sûr à leur décision et à Minneapolis en particulier, l'ambiance est très tendue. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, à Minneapolis, les habitants retiennent leur souffle, les commerces sont barricadés dans l'attente du verdict, des milliers de membres de la garde nationale et de policiers sont déployés dans la ville. Beaucoup craignent des manifestations à Minneapolis et dans le reste du pays si l'ancien policier est acquitté ou ne reçoit pas une lourde peine. Derek Chauvin encourt jusqu'à 40 ans de prison si le jury est convaincu à l'unanimité qu'il est coupable des trois chefs d'accusation, meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort de Floyd. Aux États-Unis, les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares, mais la médiatisation de l'affaire, l'enjeu pour la police et la pression de la rue pourraient influencer l'issue du procès. Le jury est composé de 6 personnes blanches et 6 afro-américains, un détail important vu le contexte racial entourant l'affaire. Dans l'attente du verdict, le président Biden a appelé la famille de George Floyd, leur disant qu'il priait pour eux. Une fois le verdict annoncé, il a prévu de s'adresser à la nation.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La droite allemande a entériné aujourd'hui le choix du modéré Armin Laschet comme candidat aux élections de septembre pour succéder à Angela Merkel. Et son rival bavarois a reconnu aujourd'hui pour la première fois sa défaite après plusieurs jours d'affrontements internes. En foot, la bataille continue de faire rage autour de la Super League. C'est 12 clubs qui veulent faire bande à part. Ce matin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a porté son soutien à son collègue de l'UEFA, Alexander Seferin, qui ne décolère pas depuis l'annonce de ce projet de compétition dissidente.
Oui, un projet qui divise, y compris les premiers concernés, c'est-à-dire les 12 clubs en question. Certains au sein de ces clubs, et non des moindres, ont déjà fait savoir qu'ils étaient totalement contre Julien Froment.
Oui, à commencer par l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, une voix qui pèse dans le monde du football mondial. Le technicien catalan, pendant plus d'une minute trente, s'est livré à un plaidoyer en faveur du football d'aujourd'hui tel qu'il est. En voici un extrait.
Le sport n'est pas un sport quand la relation entre l'effort et la récompense n'existe pas. Ce n'est plus un sport si la défaite n'a plus d'importance. Ce n'est pas du sport quand le succès est garanti. Ce n'est pas du sport quand perdre, ça ne compte pas.
Pour maintenir la glorieuse incertitude du sport, ne pas céder aux sirènes de l'argent, c'est le sens aussi du discours de Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, un des 6 clubs anglais membres fondateurs de la Super League. Il n'a d'ailleurs pas été mis au courant par son actionnaire de l'entrée des Reds dans ce nouveau projet. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a quant à lui demandé une réunion d'urgence à tous les capitaines de la Première Ligue anglaise pour donner une réponse commune au projet. Marcus Rashford, vedette de Manchester United, là aussi un club fondateur de cette Super League, a partagé une photo où l'on peut lire « Le football n'est rien sans les supporters ». En revanche, d'autres entraîneurs concernés préfèrent ne pas se prononcer. C'est le cas de Zinedine Zidane au Real Madrid ou de Thomas Tuchel à Chelsea. En tout cas, cette fronde dans la fronde, c'est du pain béni pour l'UEFA qui espère voir les 12 brebis égarés revenir d'elles-mêmes dans l'enclos.
On suivra ça.
Et Julien Froment, on se prononce ou pas?
Non, là, alors là, encore moins.
Non, encore moins. Déjà que les pronostics, vous avez
voilà,
du mal.
Voilà, exactement, mais là, hein, encore moins.
Bon. Zidane, il dit j'ai un avis, mais je ne le partage
voilà,
pas.
Voilà, quelque chose comme ça. J'ai un avis, mais je ne le partage pas.
Ce soir, en tout cas, changement de salle. On suivra 2 quarts de finale de la Coupe de France. C'est l'exact opposé en termes de compétition. À partir de 18h45, Rumilly contre Toulouse et à 21h, Canet en Roussillon, Montpellier.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa Haddadi, avec une journée humide demain. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à de la pluie?
Oui, sur le grand quart sud-est en fait, Julien. Donc sont concernés le Massif central, la région Rhône-Alpes, la Provence et le littoral méditerranéen où là, dans toutes ces régions, vous allez vous réveiller demain matin avec de la pluie. Dans l'après-midi, les pluies deviennent des averses plus éparses. C'est sur les Cévennes qu'il va pleuvoir le plus demain. Les averses vont gagner la moitié nord dans l'après-midi, des toutes petites averses sur le territoire de Belfort, la Lorraine, le nord de la région parisienne ou encore la Basse-Normandie et la Bretagne, des petites gouttes. Ailleurs, nous avons un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Côté température, bonne nouvelle, nous n'avons plus de gelée matinale. Demain, nous aurons 3 à 11 degrés le matin, 3 à Nancy et Rouen, 5 à Metz et Lille, 7 degrés demain matin pour Paris, Grenoble et Biarritz, et déjà 11 degrés à Nice. Au meilleur de la journée, nous avons une douceur printanière, comme aujourd'hui, avec 12 degrés à Boulogne-sur-Mer, 13 à Saint-Étienne, 15 degrés à Nîmes et Lyon, 16 à Nice, 18 degrés à Bourges, Ajaccio et Paris, 20 degrés à Bordeaux et 21 pour Mont-de-Marsan. Alors quand est-ce que ces nuages vont nous laisser tranquilles? Quand est-ce qu'on aura une journée avec du grand beau soleil sans aucun nuage? Je peux vous donner la réponse, jeudi et vendredi. Il va faire très beau sur tout le pays.
Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça va continuer pendant le week-end.
Patience, Julien.
Merci, ma chère Anissa. À tout à l'heure, 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invitée à 18h19, elle est entrepreneure, militante, fondatrice de l'agence Coalition. Et c'est un livre qu'elle vient nous présenter qui s'intitule « Ma génération va changer le monde ». C'est son titre aux éditions de l'Aube. Bonsoir, Flora Gebali.
Bonsoir.
Vous avez 27 ans, et vous publiez donc ce livre qui est un état des lieux de l'engagement en quelque sorte, qu'il soit individuel ou porté d'ailleurs par les entreprises, car dites-vous, notre génération, votre génération, est celle du passage à l'action. Est-ce que d'abord vous en êtes si sûr de ça?
Alors, parler pour toute une génération, c'est sacrément audacieux, et donc je ne me permettrai pas de le dire pour l'ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une génération qui a longtemps été... un peu décriée comme désabusée, désengagée, la génération abstentionniste, oui, la génération qui vote pas. Mais en fait, en parallèle... c'est le cas, c'est tout à fait le cas. Mais en parallèle de ce récit politico-médiatique qui marche bien, il y a aussi une réalité de terrain qui est que c'est une génération qui a en sa main un pouvoir extraordinaire que sont la digitalisation de la société, les réseaux sociaux, un pouvoir d'agir, d'entreprendre. C'est vrai, l'entrepreneuriat est tant répandu chez les jeunes et pas chez les autres. Enfin, moins chez les générations d'au-dessus. Donc oui, c'est une génération du passage à l'action qui revendique dans ses gestes quotidiens ce en quoi elle croit.
Alors je vous pose la question, mais vous y avez un peu répondu en quelque sorte, car il y a une forme de paradoxe quand même pour les observateurs dont je fais partie. Une partie de la jeunesse qui est résolument très engagée, et puis une autre qui vit dans sa bulle, qui ne vote plus, vous l'avez dit, qui est très éloignée de la politique, de l'engagement militant, et dont le seul moteur, en somme, c'est l'accomplissement personnel. D'ailleurs, vous en convenez puisque vous dites ceci: ce qui m'inquiète dans ma génération, c'est l'égoïsme. C'est facile, par exemple, dites-vous, de partir faire de la permaculture dans le Cantal. Alors, est-ce que ce retour à la Terre, ça n'est pas aussi une façon de changer les choses? C'est un peu court comme jugement, tout de même.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas un jugement. Et d'ailleurs, cet exemple de la permaculture dans le Cantal, c'est une amie à moi que je salue, qui se qualifie maintenant de néo-rurale. Oui, c'est un retour à la terre qui est assez important, notamment pour les jeunes urbains qui sont déconnectés de la nature et qui trouvent dans ce retour une forme de sens et d'accomplissement personnel. Ce que je raconte dans le livre, c'est que ce paradoxe générationnel, il a été théorisé. Il y a la génération oui d'un côté, donc excusez-moi pour l'anglais, la vision collective des choses, qui pense comme un collectif et qui a envie d'agir de manière horizontale. Et de l'autre, il y a la génération me, qui est la génération me comme moi, me, myself and I, et qui est une génération qu'on pourrait caricaturer par les selfies sur les réseaux sociaux, qui est plus individualiste. Toutes les générations ont leur paradoxe.
Vous avez vous-même été candidate, je crois, aux élections municipales à Paris. Vous avez travaillé aussi aux côtés du président de la République, François Hollande, à sa communication quand il était à l'Élysée. On voit que les jeunes s'engagent différemment et pour d'autres causes aujourd'hui. Manifestation pour le climat, manifestation pour l'égalité des sexes, manifestation contre les violences policières. Que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent d'un activisme qui a parfois tendance à se radicaliser?
Alors, je pense que c'est trop facile de pointer du doigt la radicalité qui existe. Hein, et moi, ce n'est pas vraiment ma thèse de thé, la radicalité. Mais c'est assez facile de la pointer du doigt et de parler, par exemple, des réunions non mixtes, cet épiphénomène qui arrive certaines fois. Enfin, moi, je n'ai jamais assisté à ça. Pour ne pas nommer le problème. En fait, le problème, c'est qu'il y a une génération qui a des choses à dire, qui n'est pas suffisamment écoutée. D'ailleurs, chaque année, le rapport du CSA qui pointe les discriminations pointe parmi les premières l'absence de jeunes dans les médias. Et donc, cette génération, je pense qu'elle a une envie et un besoin d'être écoutée. Mais au-delà de ça, je pense que pour l'intérêt de tous, elle a l'engagement dans son ADN et c'est pas mal comme leçon, que ce soit pour les grandes entreprises ou pour la politique.
Alors, j'ai précisé que vous avez travaillé aux côtés de François Hollande parce que là aussi, il y a un paradoxe. Vous tapez sur la gauche et vous tapez sur les syndicats que représente d'une certaine manière l'ancien président de la République, François Hollande. Pour vous, elle est devenue conservatrice. Elle continue à défendre l'intérêt général contre l'intérêt particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, alors moi, j'ai voulu aller à la fac après mon bac parce que je rêvais de devenir syndicaliste et de rejoindre les syndicats. Mais alors, pas de chance, je suis arrivée dans un endroit qui était très, très éloigné de la réalité, des idéaux, de ce que j'imaginais. Pareil pour les partis politiques. J'ai adhéré à un parti politique dès que j'ai été en âge de le faire, c'est-à-dire à 15 ans. Le Parti Socialiste. Et je raconte que quand je suis arrivée donc, dans la section parisienne, puisque je suis parisienne du Parti Socialiste, on m'a dit que si je distribuais des tracts pendant 20 ans, j'allais peut-être devenir conseillère municipale et que c'était génial.
Ça ne fait pas rêver.
Parce que les gens avant moi, ils avaient attendu plutôt 30 que 20 ans. Donc
c'est
je pouvais...
du militantisme corporatisme, finalement.
Voilà, et surtout, je me sens beaucoup plus efficace, et je crois que c'est ça le commun qu'il y a dans cette génération, par l'acte militant au quotidien, à commencer par la consommation, par la façon dont on peut être écolo dans son quotidien, dans ses actions, qu'en militant. Alors évidemment, les militants ont un rôle essentiel dans notre société, et les manifs, parfois, il faut y aller si on considère la cause comme légitime. Mais je crois qu'il y a un militantisme qui est moins visible, mais qui est dans l'action quotidienne et qui est partagé au sein de ma génération.
Alors Flora Ghebali, il y a un état de fait aujourd'hui, la gauche ne fait plus rêver, 40 ans après l'accession au pouvoir de François Mitterrand en 81, dont on va bientôt commémorer la date anniversaire. Qu'est-ce qui vous fait rêver, vous, aujourd'hui ?
Moi, ce qui me fait rêver, c'est l'action individuelle de chacun. C'est de se dire,
mais cette action, il faut bien qu'elle soit portée par un politique, au bout du bout.
Pas nécessairement. Ce que je raconte dans le livre, c'est ma rencontre avec l'entrepreneuriat social. Donc l'entrepreneuriat social, c'est simplement des Françaises et des Français qui innovent et qui inventent des solutions technologiques, mais pas que, pour changer le monde et transformer la société.
Oui.
Et moi, mon rêve, c'est ça. C'est Françaises, c'est Français qui innovent, qui inventent et qui n'ont pas attendu ni les politiques, ni les subventions, ni la décision municipale, ni que sais-je, pour transformer les choses autour d'elles.
Et vous mettez en avant une nouvelle génération de futurs grands patrons ou de futurs patrons, tout simplement, qui ont vraiment dans leur ADN l'envie de révolutionner le fonctionnement des entreprises et leur mission sociale et écologique d'une certaine manière. Vous y croyez vraiment à ça ?
J'y crois vraiment. On est aujourd'hui, nos entreprises sont majoritairement dirigées par ce qu'on appelle les DAF, les directeurs financiers. Je nie pas l'importance des enjeux financiers dans la gestion et le pilotage d'une entreprise. Mais je crois qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles arrivent avec leur intégrité, leur authenticité, et elles n'ont pas envie de dissocier leur vie personnelle de leur vie professionnelle. Ça s'explique par plein de phénomènes. Peut-être que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. Oui. Mais la conséquence, c'est de se dire, pourquoi je devrais être une autre, pourquoi je devrais porter un bleu de travail, le costume cravate par exemple, pour ne citer que lui, au travail et gommer mon individualité. Je crois que diriger ou gouverner, si on parle de politique, avec son expérience, c'est bien plus pertinent.
Et là, je confirme que vous n'avez pas de costume cravate dans le studio d'Europe
Soir. Je raconte dans le livre que j'ai arrêté quand j'animais un conseil d'administration et que deux patrons du CAC 40 m'ont mis leur manteau sur les bras à l'entrée de la salle en pensant que j'étais hôtesse d'accueil.
C'est une anecdote révélatrice aussi de l'état d'esprit de la société. Vous parlez de l'économie sociale et solidaire, j'en profite puisque vous citez quelques chiffres. 200 000 entreprises et structures, 2,3 millions de salariés, 12,7% des emplois privés en France. C'est évidemment un secteur qui commence à monter très très fort et qui a une mission sociale, comme son nom l'indique, et solidaire importante. Je voudrais qu'on termine sur le rôle de l'État-providence. Page 52, vous dites par exemple, le chemin est long pour réconcilier l'engagement et la politique car il nécessite de remettre en cause notre héritage de l'État interventionniste. Alors là, on se dit, est-ce que c'est une vraie libérale ou est-ce qu'au contraire... parce que vous êtes un peu contre l'État nounou, c'est ce que vous racontez aussi dans le livre. Enfin, c'est ce qu'on comprend en filigrane. Mais à la fin du livre, vous semblez acter l'échec du néolibéralisme. Donc on ne sait pas très bien de quel bord vous vous situez.
Alors on ne sait pas très bien, parce que moi non plus, je me situe pas dans un bord en particulier. Par contre, ce que je défends dans le livre, c'est que l'héritage, plusieurs héritages français, l'héritage chrétien sur la philanthropie notamment, ou l'héritage de l'État interventionniste sur l'action individuelle pour le bien commun, on fait qu'en France, on est assez en retard sur justement cette capacité d'action collective qui n'est pas forcément descendante et verticale, mais qui peut être horizontale et partir d'en bas. Effectivement, je propose quelques solutions dans le livre, notamment que, je répète plusieurs fois que le mythe de l'État-providence est mort et que l'État pourrait devenir plus stratège et plus organisateur, se concevoir plutôt comme un organisateur de toutes les actions
On ne va pas tout raconter
vertueuses.
Parce qu'il y a des solutions effectivement à la fin du livre. Merci. merci d'avoir accepté notre invitation. Flora Gabali, je rappelle le titre de votre ouvrage, Ma génération va changer le monde. On l'espère, et puis on prend date pour dans 30 ans, et on vous dira si vous avez réussi. C'est aux éditions de l'Aube. Voilà, on aime bien écouter le monde changer, regarder le monde changer sur Europe 1. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous inviter. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchier.
18h30, passé de 1 minute, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et l'Agence européenne du médicament confirme le lien entre le vaccin de Johnson et de très rares cas de thrombose, mais elle considère que la balance bénéfice-risque reste favorable. Ce vaccin qui ne nécessite qu'une seule dose va donc pouvoir être administré en France dans les prochains jours. Les chauffeurs routiers, les caissiers et les autres professions dites de deuxième ligne vont pouvoir, dès la semaine prochaine, avoir accès à des créneaux de vaccination réservés, à condition d'avoir plus de 55 ans. Ça concerne environ 400 000 personnes. La mort du président tchadien Idriss Déby des suites de ses blessures au combat alors qu'il se trouvait sur le front dans le nord du pays. Il était au pouvoir depuis 30 ans, le Tchad, allié important de la France et des Occidentaux dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Un mandat d'arrêt lancé contre un Français soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement de la petite Mia. Rémi Dele, ancien membre du Modem, réfugié en Malaisie. Il est connu pour ses thèses complotistes. Il aurait aidé les ravisseurs de la petite fille.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour toute l'info et le journal. Un coup d'œil à la météo avant de passer aux grandes voies à Nice. Le temps se dégrade dans le sud demain matin.
Oui, c'est une dégradation passagère qui va toucher le sud-est demain. L'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Provence se réveille donc sous la pluie. Dans l'après-midi, le ciel reste menaçant. Il y aura un petit peu moins de pluie, ce seront des averses. Sur les reliefs, ces averses seront orageuses. Sur le reste du pays, soleil et nuages se partagent le ciel. Les températures restent printanières. Avec la fin des gelées matinales, nous aurons 3 à 11 degrés le matin. C'est stationnaire l'après-midi avec 10 degrés à Dunkerque, 15 à Nîmes et Lyon, 18 degrés pour Paris, 20 à Bordeaux et 21 la maximale pour Mont-de-Marsan.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
Les grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Étienne Girard, rédacteur en chef du service société à l'Express. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Emmanuel Macron, déjà en campagne, à droite toute. Interview musclée hier dans le Figaro. Déplacement à Montpellier très médiatique sur le thème de la sécurité. C'était hier, quasiment toute la journée, avec des formules choc. Je veux me battre, dit-il, pour une vie paisible. Réaction ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. De Xavier Bertrand.
Quatre ans après le début de ses fonctions, cette interview, ce déplacement, comme si les paroles faisaient reculer les violences. Ce ne sont pas de paroles dont on a besoin. On a besoin d'actes pour protéger les Français parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, leur première inquiétude, leur première exaspération, c'est face à cette insécurité, face à ces violences.
Alors c'est pas tout à fait vrai quand on regarde les enquêtes d'opinion sur les préoccupations des Français. Marion Mourgue, est-ce que Emmanuel Macron est dans la surenchère sécuritaire? Ça fait penser à la rhétorique Nicolas Sarkozy. Harceler les dealers, plus de bleu en 2022. C'est un positionnement politique?
Oui, c'est clairement une stratégie assumée pour 2022. Et il y a en effet la volonté d'aller braconner sur les terres de la droite. Visiblement, il se dit que ça ne sert à rien d'aller vers la gauche. Et on sait que la droite a beaucoup voté pour lui en 2017, qu'une partie des électeurs des Républicains hésite encore à revoter pour lui. Et donc, il y a en effet cette volonté de continuer à fracturer la droite et de pouvoir trouver de nouveaux électeurs là. Donc, peut-être que la présidentielle se jouera à droite. En tout cas, là, c'est le positionnement.
En tout cas, c'est le pari du président de la République.
Pour l'instant, oui, en tout cas.
Ça marche encore, ces histoires de positionnement politique. On parle sécurité, on bombe le torse, on met des coups de menton. Ça fonctionne encore, ça, auprès des Français, Charles Villeneuve?
Moi, je crois que les Français sont quand même en partie exaspérés par l'impuissance publique qui exaspère une large majorité des Français et joue un rôle sur les résultats et jouera un rôle sur les résultats électoraux.
Ouais. Alors, peut-être mais pas les principalement. Résultats, avec les résultats sur la sécurité, on peut comprendre. Il y a un bilan ou il n'y a pas de bilan. Et là, ça parle aux électeurs. Mais l'intention, le côté on montre les dents pour donner le sentiment qu'on prend le problème à bel corps, ça marche encore ça?
Ce qui ne marche pas, c'est seulement si ça se limite à la rhétorique. Bien évidemment, il faut rentrer dans l'action. L'action, c'est donc l'augmentation des effectifs de police. Moi, je ne crois pas que ce soit la solution.
Oui.
Je crois que la vraie solution, elle est plutôt sur le maillon faible de la chaîne pénale. C'est la revalorisation du statut des magistrats. Si on veut une excellence dans le corps des magistrats, qui s'est radicalisé, s'est surtout paupérisé, il faut quand même regarder leur rémunération. S'il y a une ribambelle de présidents de la République qui ont délaissé ce corps important de la République. Mmh. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Oui.
Et c'est ça, normalement, la mission principale. C'est un écueil, c'est pas facile à faire. Oui. Du nouveau garde des Sceaux.
Oui, mais il reste qu'un an, hein, et encore un an, il reste 6 mois de pouvoir effectif, et puis après on sera les deux pieds dans la campagne présidentielle, Étienne Girard. Donc on sent bien que le président de la République ne veut pas être pris en étau sur les questions régaliennes, et notamment la sécurité entre Marine Le Pen, qui en a fait son thème de prédilection, Xavier Bertrand de l'autre, mais ça peut fonctionner ça ?
J'ai une vraie interrogation, parce qu'il reprend les recettes de la deuxième partie du quinquennat Sarkozy qui n'avait pas marché. Ces recettes, elles sont dans l'interview du Figaro. C'est effectivement grande pétition de principe. Mes intentions sont celles-ci. Les gens ont le droit de vivre une vie paisible, etc. Ça a longtemps marché, hein, Sarkozy, puisqu'il ne faut pas oublier que Sarkozy est considéré comme en pointe sur la question de sécurité. Mais dans son quinquennat, il y a eu des suppressions de postes dans la police. Donc ça a longtemps marché, mais ça n'a pas marché sur la fin de son quinquennat, rappelez-vous, à partir de quelque chose de très particulier. Ce n'était pas exactement sur la sécurité, mais c'était ce grand débat sur l'identité nationale. Et Macron, finalement, reprend la recette avec un grand débat, cette fois, sur la drogue. Et à mon avis, là, il y a danger, parce que les Français, autant... ils aiment bien, finalement, les discours volontaristes. Les pouvoirs publics doivent pouvoir faire des choses, etc. Ce qu'ils aiment moins, à mon sens, et là où il y a une vraie lassitude, c'est sur ces grands débats qui ne mènent finalement à aucun changement dans le cadre légal. Ce qu'attendent les Français, c'est du changement dans le cadre
légal. Là-dessus, Marion Mourgue, on peut noter une espèce de paradoxe, hein, parce que le président de la République annonce un grand débat sur la consommation de drogue et ferme la porte dans le même temps à une dépénalisation du cannabis. Alors, normalement, un débat, on écoute les avis et puis on tranche après. Là, on a quand même le sentiment que l'avis est déjà pris avant même le débat.
Et puis, ce n'est pas le premier sujet où on a des avis contradictoires de la part du président ou de sa majorité. Mais la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est s'il se met à ce point en première ligne sur la question de la sécurité, plus encore que son ministre de l'Intérieur, qui est déjà très visible, c'est de risquer d'avoir l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'il le dit d'ailleurs dans l'interview dans le Figaro, il y a un sentiment d'insécurité dans l'esprit des Français. Donc ce sentiment d'insécurité, pour arriver à le dégonfler, il faut en effet des moyens, il faut des déclarations, mais il faut des résultats. Et s'il ne les a pas, ça veut dire qu'il sera pris, il sera jugé comme responsable avec la sanction qui peut intervenir.
Pardon, je répète ma question, mais ça fait 20 ans qu'on fait des débats sur le sentiment d'insécurité et l'insécurité. Et ça fait 20 ans qu'on entend des présidents de la République ou des ministres de l'Intérieur dire « Vous allez voir ce que vous allez voir, maintenant c'est terminé », avec les résultats que l'on sait. Est-ce que ça peut encore fonctionner aux yeux des Français ?
Ça peut encore fonctionner s'ils ont le sentiment que leur quotidien s'améliore. Mmh. Mais ça veut dire qu'il faut plusieurs
mois. Mais en 6 mois de temps, c'est pas possible.
C'est très difficile. Alors, on voit Gérald Darmanin qui saupoudre des effectifs de policiers auprès de commissariats, généralement dans des villes dont il aimerait ensuite un soutien politique pour la majorité. Donc, est-ce que ça portera ses fruits pour l'opinion ? Est-ce que les Français se diront, bah tiens, finalement, ça a changé ? C'est en effet un temps très court.
Bien, 18h39, une première pause et on se retrouve avec les grandes voix du mardi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, les suites des grandes voix du mardi avec toujours Charles Villeneuve, Marion Mourgue du Figaro, Étienne Girard de l'Express. Il y a d'ailleurs un élément de langage que j'ai retenu moi hier dans cette visite à Montpellier des quartiers sensibles et notamment à la Mosson. Le président de la République a utilisé et qu'il a repris dans l'interview du Figaro, la vie paisible. Ça rappelle un peu le slogan de Marine Le Pen, la France apaisée. Vous vous souvenez de ça, Charles Villeneuve ?
Oui, je me souviens. En réalité, il est allé à la Mosson et s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on assiste en réalité à la constitution de la ghettoisation d'un certain nombre de quartiers sensibles. Et il faut dire que quand il est parti 18-19, début 19, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, il avait raison, il a fait le même constat. Le constat à l'identique quasiment du dialogue de cette jeune mère avec le président de la République. La mixité à l'école, moi j'ai été élevé dans une école de la République, etc. Mais on a raté complètement, on le sait, l'école de la République, elle n'est plus du tout, en tout cas dans ces quartiers-là, ce qu'elle était même il y a 15 ans.
Oui. Alors je voudrais vous faire partager l'extrait dont vous parlez. C'est un échange assez fort qui a eu lieu à Montpellier entre le président de la République qui a été interpellé par une habitante d'un quartier en difficulté et qui lui reprochait le manque de mixité sociale. On l'écoute.
C'est ça. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. Je lui dis non, mon fils Pierre existe vraiment, il y a des gens qui s'appellent Pierre.
Alors, Marion Mourgue, là, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. C'est assez fort, hein, la manière dont le président de la République a été interpellé. On est dans ce que Manuel Valls avait appelé à l'époque, ce qui avait fait scandale, l'apartheid territorial et social. J'irais même plus loin, avec un petit mot de malice, on est presque dans le séparatisme à l'envers, là.
Oui, et on voit la réaction sur le visage d'Emmanuel Macron, même s'il porte un masque, que les bras lui en tombent. Donc visiblement, il ne s'attendait pas à une telle réalité. Et d'ailleurs, il s'était opposé il y a quelques années aux propos de Manuel Valls.
Oui.
Mais là, oui, c'est ce que plusieurs sociologues dépeignent. C'est ce côté de communautés qui vivent les unes à côté des autres. Il n'y a plus de mixité sociale, que ce soit à l'école où ça existait, les colonies avant, le service militaire a disparu. Oui. Donc, il n'y a plus vraiment d'endroit où les gens peuvent se rencontrer.
Oui. On a, en somme, Étienne Girard, une mère de famille qui veut de la mixité et a raison, et l'État qui est un fichu de lui apporter une réponse.
Ah mais absolument. Sur ce point, on peut considérer que le macronisme est en échec depuis le début. Pourtant, cette idée de mixité sociale, d'égalité des chances, c'était aux sources hein, de l'action politique d'Emmanuel Macron. C'était même le point phare du livre, rappelez-vous, « Le progrès ne tombe pas du ciel
oui. »
d'Ismaël Emelien, son principal conseiller, qui se voulait un peu le théoricien du macronisme. Mais pourtant, sur le terrain, et par exemple sur la question éducative, en termes de mixité sociale, on est au point mort. Il y a eu une expérimentation qui a été faite, pour être tout à fait honnête et complet, dans les quartiers nord de Paris, dans le nord de Paris, dans les 18e, 19e, 20e arrondissements, qui est plutôt un succès en termes de mixité éducative, mixité sociale. Mais cette expérimentation-là n'est pas du tout généralisée.
Ouais.
C'est-à-dire que on a compris le constat, oui, effectivement, il ne découvre pas, Emmanuel Macron, que oui, il y a des ghettos, oui, il y a du séparatisme à l'envers en France. Mais il n'y a pas d'action politique forte.
Oui.
Pourtant, il y a un ministère de la ville depuis des années, il y a un ministère de l'égalité des territoires. Il n'y a pas de politique publique forte.
Ça fait 30 ans,
hein,
forte.
Oui,
c'est très fort et c'est très dur pour le président de la République qui vient annoncer des mesures plutôt sécuritaires et qui se retrouve devant le mur de la réalité. On est presque dans le en même temps dans cette séquence.
Cette absence de mixité, elle s'est accélérée, notamment avant la prise de pouvoir de Macron.
Oui.
Ça date, ça c'est... je dirais qu'il y a au moins deux ou trois présidents de la République qui ont vu cette accélération.
Mais c'était l'une de ses grandes promesses.
Mais d'ailleurs, pourquoi vous avez des révoltes du type d'émeutes, etc. C'est parce que la police judiciaire a décidé de s'attaquer à l'économie souterraine, à l'essentiel de l'économie souterraine de tous ces quartiers, c'est-à-dire le trafic de drogue.
Mmh.
C'est à partir du moment où vous tapez la caisse, évidemment... Eh bien, ils se révoltent et ils disent un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, on leur tend le micro en disant « mais ils viennent nous attaquer, ils viennent nous railler, ils viennent... » Non, le problème, c'est qu'ils viennent leur piquer leur bourse.
Oui.
C'est ça.
Là, c'est pas ce que nous dit cette mère de famille.
Non, si. À côté de la mère de famille, ça, on ne l'a pas enregistré, mais il y a plusieurs habitants de la ville qui ont expliqué qu'il n'y avait pas longtemps, une des écoles a été quasiment attaquée par les trafiquants de drogue qui s'installent, qui mettent une sorte de comptoir de deal et ils demandent aux gens de passer leurs commandes par Snapchat.
Ouais.
C'est ça qui a été décrit aussi. Ouais.
Qu'est-ce qu'il peut répondre le président de la République sur ce double équilibre hein. Il y a répondre aux Français sur ce sentiment d'insécurité,
on l'a dit.
Et sur la question de la mixité sociale qui lui est mis en pleine figure.
Bah, ce déplacement était intéressant parce que Emmanuel Macron avait organisé justement une série de rencontres avec les élus sur cette question de la mixité sociale. On se souvient de l'épisode avec Jean-Louis Borloo aussi sur les quartiers. Et on voit que l'application ne suit pas, c'est pas le même sujet, mais il y a une dame de 93 ans qui dit qu'elle n'a pas été vaccinée. Et là aussi, on voit le président qui était désarmé, puisque plusieurs fois, que ce soit sur la mixité sociale, sur la vaccination, il essaye de prendre des décisions. Et puis on voit qu'en bout de chaîne, ça ne suit pas. Et donc là-dessus, c'était intéressant sur le décalage aussi entre les déclarations des politiques et puis la réalité du terrain.
Mais là, pardon, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça participe aussi au désarroi des Français de façon plus globale. Parce que là aussi, sur ce sujet-là, ça fait 30 ans qu'on entend des responsables politiques dire « on va faire plus pour la mixité sociale ». Vous vous souvenez de l'initiative Nicolas Sarkozy sur la carte scolaire, par exemple, pour essayer de désenclaver certains groupements scolaires. Ça ne fonctionne pas.
La vérité, c'est qu'il y a aussi, il faut le dire, une ambiguïté des Français sur cette question-là. Et une transgression parfois des valeurs des Français quand ils se trouvent personnellement confrontés à ce type de situation, tout particulièrement sur la question de l'école. Il y a un certain nombre de Français qui votent, par exemple, à gauche. C'est le cas dans certains quartiers où la gauche arrive très en tête à Paris et en banlieue parisienne.
Oui.
Ils ont leurs valeurs, mais quand leurs enfants doivent aller
au collège, ben on va pas les mettre au collège de la banlieue. Oui. On va pas les mettre au collège de quartier, on va les mettre dans le privé ailleurs. Et oui, et ça, c'est une contradiction qui finalement fait frein à ce qu'il puisse y avoir une vraie mixité sociale.
Alors, je sais pas si vous avez vu la réaction de Robert Ménard, qui a fait un peu de provocation, qui a dit qu'il faut aussi se demander pourquoi les pierres ne veulent pas vivre avec les Mohamed.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais votre dialogue avec Marion Mourgue était très intéressant sur le fait que le président de la République s'est trouvé désarçonné. Pourquoi ? Parce que la logistique de La République En Marche n'est pas à l'égal du RPR à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout organisé avec précision, avec le bon interlocuteur, etc. C'est là qu'on voit que ce n'est pas un vrai parti.
Ça, c'est pour la com. Merci, Charles. Vrai. On se retrouve dans quelques secondes. Vous restez avec nous, 18h48. On parlera du déconfinement. Tiens, ça fait longtemps. Territorialisé maintenant, nous dit le ministre de la Santé. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite des grandes voix du mardi avec toujours Charles Villeneuve, Marion Mourgue du Figaro, Étienne Girard de L'Express. Alors, c'est l'info sanitaire du jour. Faut-il des déconfinements territorialisés ? C'est ce que propose Olivier Véran ce matin dans les colonnes du Télégramme. Retour, en somme, à ce qui avait été fait il y a quelques mois, là où le virus circule moins, on relâche la pression. Et inversement, écoutez l'entretien un peu passé inaperçu en France qu'a eu Emmanuel Macron avec la chaîne américaine CBS à ce propos. C'était dimanche.
On va progressivement lever les restrictions au début du mois de mai. L'idée est de toujours contrôler le virus, de maximiser la vaccination et de petit à petit déconfiner. Ce qui veut dire qu'on va préparer les vacances d'été avec les professionnels en France, pour les citoyens français, européens, mais aussi américains.
Alors c'est le retour des cartes vertes et des cartes rouges. Vous vous souvenez, il y a un an, chaque jour, on avait comme ça le palmarès des couleurs de la France en fonction de leur niveau de contamination. C'est intéressant la régionalisation Marion Mourgue. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quand même, quand on regarde les chiffres de façon analytique, on est à des niveaux de contamination, des niveaux d'hospitalisation, des niveaux de patients en réanimation qui sont au même niveau qu'il y a un mois. Donc on n'a pas baissé. Et on parle de déconfinement comme si de rien n'était.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, ce déconfinement territorialisé, il avait été réclamé par les élus, notamment en Bretagne, et à l'époque, ça leur avait été refusé. On leur répondait justement que le niveau de contamination n'était pas si différent de ce qui se passait en Île-de-France. Je crois qu'aujourd'hui, finalement, le pouvoir ne regarde pas tant le niveau de contamination que le désespoir des Français. Oui. Et la nécessité d'avoir une ligne d'horizon en se disant « on va y arriver ».
Mais pour rebondir sur ce que vous dites, là, il y a quand même des niveaux de contamination très différents. Taux d'incidence Finistère, 91 pour 100 000 habitants. Seine-Saint-Denis, 691 pour 100 000 habitants.
Mais c'est pour ça que je trouve que le choix des territoires par rapport à la circulation du virus et à l'encombrement des hôpitaux est logique.
Oui.
D'ailleurs, quand on recommençait à confiner pour la troisième vague, on l'a fait petit à petit. 10 territoires, puis 19 territoires, puis
Oui, mais souvenez-vous, il y a un mois, quand on a confiné le pays au niveau national, confinement partiel certes, on a dit ça circule tellement de territoire en territoire, les services de réanimation sont si encombrés qu'il faut des mesures nationales, sinon ça ne fonctionnera pas.
Oui, mais parce qu'il y avait une accélération importante et un encombrement qui s'annonçait important.
C'est vrai, ça n'a pas baissé.
Oui, non, mais ça a très peu. Enfin, là, j'ai vu la courbe, c'est millimétrique, la baisse.
C'est epsilon.
Et absolument. C'est la raison pour laquelle je pense. Mais si vous voulez, il ne faut jamais oublier la volonté du président de la République de ne pas confiner complètement. Il a tenu ce pari.
Oui.
Même dans le troisième confinement, ce n'est pas aussi sévère que ça l'était. Il y a encore un espoir de circulation. On l'a réalisé, cet espoir, etc. Bon. Et là, il s'est fixé une propre limite, le 15 mai. Et donc, il veut à tout prix tenir, je pense, ce 15 mai. Alors maintenant, est-ce que ça pourra être national ? Moi, tout à l'heure, il y a quelqu'un dans la rue qui m'a arrêté, qui m'a dit « Bon alors, on déconfine ou on ne déconfine pas ?» Et je lui ai dit « Écoutez, cher ami, on regarde un peu la circulation du virus et l'encombrement des hôpitaux. Ce n'est pas formidable. Au contraire, ils sont 6 000 à l'encombrement de la réanimation à l'heure actuelle.
Ouais.
C'est beaucoup.
Ouais.
Ça a encore un peu monté. Ce n'est pas possible. Il faut que ça baisse. » Mais d'accord. Mais ça ne peut pas baisser automatiquement parce qu'on le désire.
Étienne Diarra.
Moi, je suis quand même un peu surpris et saisi d'entendre ça quand je regarde les chiffres, effectivement. Comme vous l'avez rappelé, il y a quelque temps, c'était une catastrophe qu'on avait 15 000 cas supplémentaires et on ne pouvait pas rouvrir les bars et restaurants avant d'avoir 5 000 cas par jour. Oui. Rendez-vous compte, aujourd'hui, on a 33 000 et cette cohérence d'ensemble, l'idée que
la réouverture est toujours fonction de l'évolution de l'épidémie, ça a volé en éclats. Et on ne parle plus du tout de ça. Et maintenant, on réouvre territoire par territoire de façon relative et comparative. C'est-à-dire, on va réouvrir, on ne va plus regarder les chiffres, on va réouvrir là où il y a moins d'incidence. Mais ce qui compte, c'est pas moins d'incidence. Enfin, si j'ai compris la logique du gouvernement.
C'est une réouverture qui n'est pas rationnelle, qui est une ouverture.
C'est pas une décision politique. Parce que la pression de l'opinion publique et la pression de chaque milieu est de plus en plus forte, que ce soit le milieu de la culture, le milieu de la restauration, le milieu du tourisme.
Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a trois semaines en arrière, on était dans l'extrême inverse.
Sauf que l'été approche.
Les scientifiques n'arrêtaient pas de dire il faut faire quelque chose. Les médias en parlaient du matin au soir, parce que les scientifiques en parlaient, parce que l'opposition en parlait. Par conséquent, le gouvernement et le président de la République ont réagi, ont reconfiné le pays. On est dans la même situation, peu ou prou. Et on est dans une perspective totalement différente.
Comme on nous avait dit, un reconfinement d'un mois, si on prolonge, on sait aussi que les Français peuvent, à la limite, descendre dans la rue. Enfin, ils n'en peuvent plus. Et donc, à un moment, il y a aussi ce paramètre-là dont il faut tenir compte.
On ne peut pas continuer comme ça quand Boris Johnson nous nargue hier après-midi à Londres, il prend un pot de bière.
Bien sûr, avec sa pinte derrière le bar.
C'est vrai, sur la terrasse d'un pub. C'est pas possible.
Oui. Mais on verra comment ça va se dérouler en Grande-Bretagne, parce qu'il y a des scientifiques qui commencent à alerter sur le fait que ce déconfinement, vous avez vu les images, avec les terrasses qui sont remplies, avec une foule compacte, l'épidémie peut partir
les gens en quelques secondes, surtout à Londres.
Oui, mais au Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus à avoir été vaccinés, reçu leur première dose, ce qui fait quand même
plus de 60%.
Une différence importante.
Bien sûr.
Bien. Marion Mourgue, vous pensez que la date de mi-mai, le président s'y tiendra coûte que coûte ? Il faudra qu'il montre des signes de desserrage de vis ?
Il va essayer. Le seul problème, c'est que vous avez le week-end de l'Ascension qui tombe justement mi-mai. Est-ce qu'il décide, comme l'année dernière, de décaler un peu ce déconfinement pour éviter qu'il y ait un départ massif en week-end, puisque ce sera le seul pont pour les salariés ? Il y a aussi cette question-là pour éviter qu'il y ait une sorte de transhumance nationale.
Ouais. Très logiquement, il devrait y avoir une prise de parole dans les prochains jours, parce qu'on arrive au bout des fameuses 4 semaines. L'école reprend lundi prochain pour les primaires
pour les écoles,
et les maternelles. Le 3 mai pour collège et lycée la semaine suivante. Absolument. Il faut qu'il y ait une prise de parole là, du président de la République.
Mais voilà l'occasion aussi de faire des réformes, diminuer le jour des congés, comme vient de le dire Marion Mirx, c'est embêtant.
Bon, on y tient quand même à nos vacances et à nos RTT.
Surtout cette année, je crois.
Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, restez avec nous dans quelques secondes, le journal de 19h et le débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéressera à l'inquiétante montée des mouvements complotistes et survivalistes après les dernières révélations sur les ravisseurs de la petite Mia. A tout de suite.